Moi, je suis très sensible à l'histoire de apporter sa part, et c'est vraiment par rapport à ça qu'on est on est confronté à cette difficulté, parce que il y a des élèves pour qui apporter sa part, c'est quelque chose auquel ils sont habitués, peut-être dans leur famille, on leur demande leur avis, il y a du dialogue, enfin, ils ont même des choses à apporter et à dire. Et les élèves en difficulté, justement, c'est tellement difficile d'apporter sa part, parce que ça demande un effort d'apporter sa part. Il faut se concentrer, il faut être en lien avec soi-même, il faut avoir des choses à dire, il faut avoir confiance dans les choses qu'on a envie de dire. Et enfin, moi, je rencontre beaucoup de situations, justement, où aller leur demander d'apporter sa part, c'est un parcours du combattant de notre part. Enfin, c'est parce qu'on a une sorte de foi, c'est souvent ce qu'on se dit quand on sort d'une classe où on a mené ce combat pendant... Enfin, nous, à Genève, on a bien heureusement deux périodes d'affilée et pas qu'une. Et parfois, on est vraiment épuisé de ce parcours du combattant pour arriver à leur... comment dire, à leur suggérer que apporter sa part, c'est tellement bien, et qu'ils ont probablement quelque chose à dire. Ils savent peut-être même pas encore qu'ils ont quelque chose à dire, mais c'est à ça que l'on croit. Et voilà, je trouve que c'est ça la difficulté. C'est bien sûr qu'on est, comment dire, convaincu qu'il faut apporter sa part, mais le chemin pour que ces élèves-là puissent apporter leur part est très très long et très difficile. Et je pense que, enfin, toutes les expériences qui ont été citées, en fait, elles sont citées parce que ça se passe sur du long terme. Et ça, je pense que c'est tellement essentiel. Et c'est ce que nos autorités, en tout cas nos institutions, ont tellement du mal. C'est qu'ils ont l'impression que la culture, c'est une espèce de petite cerise sur le gâteau. Par exemple, en tout cas à Genève, là, il y a un service de la culture qui nous encourage à ce que les élèves aient une sorte de passeport culturel où ils iraient 3 fois par année voir un spectacle, par exemple. Et pour eux, quelque part, accéder à la culture, c'est ça. Et bien sûr que nous, on se bat pour tout à fait le contraire, mais c'est très très difficile de faire prendre conscience que c'est un chemin qui est long, enfin, qui prend du temps, parce qu'il faut déconstruire des choses, reconstruire d'autres choses, et que si on ne nous donne pas ce temps-là, et qu'on pense qu'en quelques secondes, on va donner un éclairage nouveau et permettre cette prise de parole, ou en tout cas cette participation, c'est un leurre, quoi.
Oui, merci. Nous, on n'a pas le passeport, mais on a le parcours. Je voudrais faire une proposition. Moi, je serais quand même assez favorable à ce qu'on essaie de ne pas toujours penser en séparant les catégories d'élèves, en élèves issus de milieux défavorisés et élèves issus de milieux favorisés. Parce que de même que Samia a dit que ce qu'elle avait découvert dans la recherche qu'elle a menée, c'est une réalité plus complexe que ce que les enseignants s'imaginaient, il faut quand même penser que dans les milieux favorisés, ou réputés tels, ce qu'on appelle milieux favorisés d'ailleurs, ce sont des milieux dont on imagine que la proximité des familles avec l'école est réelle, je pense que la réalité est aussi plus complexe que ce qu'on s'imagine. Alors je le dis toujours, c'est le seul moment où je parle de moi, je dis, je suis désolée, mais parce que la question des familles revient toujours, hein, et puis de ces élèves et de leurs particularités et de leur éloignement du monde de la culture, etc., et de l'art. Mais moi, j'étais fille d'instit, et ben, je vivais avec une extrême violence, différence de valeur entre l'école et ce que je vivais dans ma famille. Donc, vous voyez, bon, je pense que les réalités familiales sont de toute façon plus complexes, hein, que ce qu'on s'imagine. Et par ailleurs, sur le fait d'apporter sa part, là, j'aurais quand même tendance à penser que tous les élèves sont à égalité, même si certains ont une facilité d'expression langagière plus importante. Enfin, bien sûr, mon expérience, elle est ce qu'elle est, elle n'est que mon expérience. Mais je me souviens très bien à Lille, dans cette recherche qui me conduisait à aller quand même dans l'école une fois par semaine, à aller dans les classes. Hein. Et bien, les élèves... Ce qu'on avait pu observer, c'est que bon, c'était dans un secteur en éducation prioritaire, hein, avec des élèves bon, assez globalement issus de l'immigration, des problèmes de violence. Hein, mais dans les classes, je n'observais pas d'avantage particulier des élèves, des bons élèves, au sens scolaire du terme, issus de milieux où il y avait des échanges. Je n'ai jamais observé qu'ils étaient particulièrement avantagés du point de vue de l'objectif d'apporter sa part, et parfois même le contraire. Mais je pense qu'on l'a tous observé, ça. De très bons élèves, complètement en retrait, dans des situations justement où il faut produire devant les autres. En revanche, des élèves pas particulièrement bons scolairement, mais qui se révèlent, ça aussi on l'a tous vu. Donc je pense que de ce point de vue-là, j'aurais tendance à penser qu'il y a une certaine égalité entre les élèves quand même. Parce qu'en plus, quand on dit apporter sa part dans ce domaine, bien sûr qu'il y a des élèves qui ont une aisance langagière, mais ça peut être une espèce d'aisance langagière de surface. Mais quand on est vraiment mis en situation de pratique artistique, là, les masques tombent pour tout le monde, quand même. Hein. On produit, puis il faut produire, ensuite il faut expliquer aux autres, montrer aux autres. Voilà.
Bon, oui, merci. J'ai plusieurs questions, là, à vrai dire. La première question, c'est, vous parlez des finalités éducatives des institutions, et on ne peut qu'être d'accord, évidemment, un certain nombre d'institutions ont des occupations éducatives. Mais vous avez oublié de noter qu'ils étaient strictement urbains, c'est-à-dire qu'on a à l'heure actuelle un grave problème au niveau d'institutions qui ne sont pas urbaines précisément, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Et on a vu au résultat des élections que la France à l'heure actuelle était clivée en deux, notamment une France rurale qui est assez dépourvue précisément d'institutions à vocation culturelle et une France urbaine. Et on a vu qu'ils ne votaient pas du tout la même chose. Donc, moi je pense que l'éducation artistique... est une chose évidemment très intéressante et très importante, à condition qu'elle soit relayée par l'excellence démocratique et républicaine qui couvre la totalité de l'Hexagone, ce qui est loin d'être le cas. Donc, c'est un grave problème, parce que on est dans une situation qui est, par principe, inégalitaire. Et ça, vous n'en avez pas parlé, ça m'a beaucoup étonnée. Alors ça, c'est une chose. D'autre part, je suis quand même toujours très étonnée de voir que les ambitions autour des enseignements et de l'éducation artistique sont essentiellement de pratiquer l'individuation, etc., etc. Mais pourquoi donc les autres enseignements ne sont-ils pas partie prenante de cette volonté artistique ? Vous parlez d'une hiérarchie, bien sûr, mais moi j'enseigne à l'ESPE, donc, et je vais assez souvent voir les classes. Et très souvent, les élèves stagiaires nous disent que, et les stagiaires et les titulaires d'ailleurs, nous disent qu'ils ne sont jamais inspectés sur des questions artistiques. C'est-à-dire que quand on va voir une classe, les inspecteurs, en général, disent surtout, montrez-moi quelque chose de sérieux, mais ne me montrez pas de musique ni d'art visuel. Alors, il faudrait, à mon sens, que... c'est une réalité, hein, malheureusement. Et le fait qu'ils ne sont pas formés également et qu'ils transportent pour un certain nombre d'entre eux un certain nombre de stéréotypes fait qu'ils se sentent incapables de valider, d'aider des professeurs des écoles dans leur pratique d'enseignement artistique. Parce que la seule façon d'assurer une véritable démocratie et républicaine, une excellence républicaine, c'est bien de doter... De doter tous les élèves et tous les instruments de l'éducation nationale de quoi valider ces enseignements, c'est-à-dire de comprendre les langages, et ça se fait par l'enseignement. Parce que je regrette, moi l'an dernier, hier je n'ai pas été convaincue par la qualité, par exemple, de ce qui se faisait au théâtre, et ça m'a paru être complètement farfelu, pour ne rien vous cacher. Donc je pense qu'il faut absolument si on veut faire des passerelles avec l'éducation artistique, doter l'enseignement de quelque chose d'un peu plus solide, notamment au niveau des inspecteurs et au niveau aussi de la formation. Dans les ESPE, on assiste à une dégradation totale de la formation.
Oui, je vous remercie de votre expression. Je n'en ai pas parlé de tout ce que vous évoquez, je n'en ai pas parlé parce que ce n'était pas mon objet. Mais bien évidemment, sur les enseignements artistiques, ce dont je n'ai pas parlé, ce n'est pas non plus l'objet de Joël Zask, hein. C'est de la situation de l'école primaire, hein, où les enseignements artistiques ne sont pas une réalité. Dans d'autres cadres, ce que je dis, mais je vais le redire ici publiquement, pour moi, la première condition de cette démocratisation entendue au meilleur sens du terme passe par les enseignements artistiques, c'est-à-dire qu'effectivement dans les zones rurales où il n'y a rien, où il n'y a pas de ressources, où il n'y a pas de point d'appui dans des institutions culturelles ou artistiques, enseigner les arts en classe à l'école primaire, c'est quand même déjà le meilleur moyen d'assurer aux élèves ce rapport à l'art et à la culture. Or, ce n'est pas une réalité. Il y a une réelle difficulté. Inciter les inspecteurs à inspecter sur les enseignements artistiques, je le fais moi évidemment à mon niveau, je suis inspectrice générale, j'inspecte les inspecteurs. Donc quand j'inspecte les inspecteurs, je leur demande de me montrer une situation d'inspection dans les enseignements artistiques. Mais ce que je fais moi toute seule, c'est une goutte d'eau. Mais je le fais quand même. Bon. La situation de la formation est catastrophique, bien évidemment, je le sais, partout où je passe, et ça m'est arrivé de venir à plusieurs reprises à l'ESPE de Lyon. Je sais bien que la formation a été réduite à la portion congrue pour ce qui concerne les arts, hein. Bien évidemment, les arts, mais aussi plein d'autres choses. Bon. Oui, tout ça nous inscrit dans un paysage dans lequel on essaie de promouvoir ces enseignements et cette éducation en tenant compte de la réalité. On n'a pas transformé les ESPE ni le nombre d'heures dévolues à ces enseignements. Donc il faut localement trouver des solutions, notamment du côté de la formation continue. Voilà tout ce que je peux dire, hein. Je suis d'accord avec vous.
Merci. Oui, je rebondis exactement sur ce que vous dites, puisque moi je m'occupe de la formation continue des enseignants du premier degré. Donc effectivement, c'est un peu sur ça que je voudrais dire quelque chose. Alors effectivement, il y a quasiment plus de formation dans les domaines artistiques cette année-là, hein, quasiment. Et lorsque je vais voir des PESE, donc jeunes enseignants dans leur première année d'enseignement, en art bien sûr, en art visuel, puisque c'est pour ça que j'y vais, bon, très souvent on prend peur. Mais vraiment on prend peur, quoi, parce que ils font des choses, on se dit, mais déjà, quelle représentation eux-mêmes ils ont. Moi, j'ai vu une jeune, là, qui disait au petit, on va refaire les nymphéas. Alors, elle a mis les nymphéas au tableau, puis elle a mis une grande feuille blanche au tableau. Elle a dit, regardez comment je fais. Elle a pris un pinceau, elle a fait des petites touches. Allez-y, faites pareil. Stop, on arrête, on reprend le pinceau. Voilà, bon. On s'est dit, bon, alors là, il y a vraiment beaucoup de travail. Et pour répondre aussi à madame là, qui arrive de Genève, voilà, les enseignants du premier degré, alors non plus de formation, et ne sont pas donc de formation disciplinaire. Donc, sauf s'ils ont quelques affinités avec les arts, mais il y en a peu finalement. Ouais. Le sport, oui, mais les arts, non. On se trouve avec des enseignants qui connaissent rien. Je suis un peu schématique, mais on n'en est quand même pas très loin.
Oui.
Voilà.
Donc, parce qu'en fait, la dernière fois où ils ont reçu des enseignements artistiques eux-mêmes, c'est quand ils étaient au collège.
Voilà, eux-mêmes au collège.
Au collège.
Donc ça dépend ce qu'ils ont.
Contrairement aux professeurs du second degré, mais les professeurs du second degré ou les IAIPR ici présents me contrediront si je me trompe, les enseignants du premier degré n'ont pas de pratique artistique régulière, hein, tandis que les professeurs en art du second degré, je pense, sont engagés des pratiques artistiques régulières.
Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, tout ça pour dire que sur les outils et les préconisations et les outils qui en découlent donnés par le ministère, bien sûr qu'on est dans des choses qui parfois peuvent sembler un peu découpées, un peu trop directives, etc. Mais je crois que dans le premier degré, on a besoin de ces outils-là. Parce que je prends par exemple la liste de référence d'œuvres sur Eduscol. eh bien, c'est une vraie ressource pour des enseignants qui ne savent pas du tout l'architecture du Moyen-Âge, de quoi je vais bien pouvoir parler. Ils peuvent aller piocher dans la liste, c'est déjà quelque chose. Donc je crois que ces outils-là, pour des professionnels de l'art, ça semble peut-être un petit peu réducteur, etc. Mais que pour des enseignants qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ont envie de se lancer, la formation continue est quand même très réduite aussi maintenant, on en a besoin. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, dans le meilleur des cas, presque dû à la manière d'eux.
Oui, tout à fait, à la manière d'eux, exactement.
Voilà.
Et en fait, cette manière de travailler à la manière d'eux a été renforcée par la manière dont les enseignants ont compris la place de l'histoire des arts dans les programmes.
Complètement, complètement.
Du coup, ça a consolidé cette tendance, en fait, qui est une tendance aussi protectrice pour les enseignants de travailler à la manière d'eux.
Et quelquefois, alors c'est vrai que le fait d'impulser des projets artistiques avec des interventions d'artistes aide des enseignants aussi à se dire c'est vrai ça, on peut faire ça, parce que finalement des choses simples parfois ils n'ont pas idée qu'ils peuvent faire ça, et oui, avec des artistes ils se lancent dans des choses en disant ça je peux le faire tout seul aussi maintenant. Voilà. Donc on utilise un peu tout ça.
Oui, c'est vrai que sur les pratiques artistiques, les enseignements artistiques à l'école primaire, quand je travaille avec des inspecteurs, en général, je leur passe des vidéos, pas des vidéos modèles. J'en ai une en particulier que j'utilise, qui met en scène une professeure des écoles stagiaires dans une petite école des Vosges. Et en fait, c'est quand même pour rappeler qu'on peut faire, on peut vraiment assurer ces enseignements artistiques en restant modeste.
Oui, c'est ça, tout à fait.
En restant modeste, déjà réconcilier les enseignants avec cette idée, c'est déjà beaucoup. En restant modeste, alors bien sûr, on se dit que jamais ils n'emmèneront les élèves aussi loin que qu'on peut emmener les élèves dans un programme comme Enfance, Art et Langage, qui est quand même un modèle du genre. Mais quand même, on emmène les élèves quelque part.
Et cette idée, justement, dans les parcours, de devoir inscrire, après réflexion, conseil de cycle, que peut-être au cycle 2, ils iront au théâtre, que peut-être... Bien sûr, c'est un petit peu... Mais en même temps, je crois qu'il faut qu'on puisse en passer par là.
Tout à fait, oui. Je partage ce point de vue.
Donc, se pose à nous, en tant que formateurs, la question des ressources aussi, mettre à la disposition des enseignants. Ressources en tant que telles, comme vous disiez, des œuvres, mais aussi peut-être en termes d'ingénierie de formation, quelle est notre part, puisqu'on est beaucoup dans la formation, notre part de proposition.
Alors pour mémoire, le rôle des conseillers pédagogiques en art dans le premier degré, qui sont quand même les personnes ressources par définition, elles sont sur le terrain, ces personnes. Eh bien, cette année, nous avons proposé au PNF un séminaire pour ces conseillers pédagogiques en art qui se tiendra à la rentrée, sachant que les conseillers pédagogiques en art n'ont pas été réunis dans un séminaire de formation nationale depuis 15 ans.
Je suis formatrice d'enseignants en Suisse.
Oui.
Et j'ai une manie en général quand j'écoute un discours, c'est toujours d'essayer de repérer les messages qu'on pourrait transmettre volontairement ou pas volontairement à travers certaines choses. Et j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Et en repartant du début, où vous avez posé déjà dès l'entrée le fait que c'était essentiellement les disciplines artistiques qui portaient explicitement l'objectif des valeurs, de permettre le développement d'un certain nombre de valeurs, et aussi que ces disciplines artistiques, on avait tendance à les privilégier dans les quartiers défavorisés, dans les zones prioritaires. Déjà, à ce premier échelon, je me dis, comment ça peut être reçu de la part des élèves ou des parents? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de, quand on n'est pas compétent sur les disciplines qui participent de la sélection, on va nous revaloriser avec des disciplines dites secondaires. Et puis, tout ça mis bout à bout, ce qui m'inquiète là, comme je ne suis pas enseignante d'art, mais je suis enseignante formatrice pour les enseignants généralistes, c'est cette espèce de tension, d'opposition qu'on fait systématiquement entre des disciplines artistiques qui développeraient un certain nombre de valeurs, qui émanciperaient l'individu, qui lui permettraient de s'individuer, comme vous l'avez justement dit, mais qui ne lui fournirait pas d'outils qui lui permettraient de développer ses dimensions intellectuelles, techniques ou d'accéder à un certain nombre de normes, et qu'on oppose systématiquement à des disciplines plus valorisées en termes de sélection et dans lesquelles on oublie la part des valeurs et la part de l'art, comme vous l'avez dit. Et je me mets à la place de ces élèves. On passe d'un côté à l'autre. D'un côté, on nous dit vas-y, mets de la part de toi, et puis j'arrive pas à le faire. Puis un quart d'heure plus tard, je suis en train de résoudre un problème mathématique, et puis j'y mets une part personnelle, et puis je résous ça autrement, mais tout aussi efficacement. Puis là, on me dit que c'est interdit. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à mener dans l'articulation, en tout cas pour les jeunes élèves, dans l'articulation entre toutes ces disciplines, et en n'ayant pas des messages contradictoires.
C'est sûr.
Je me demandais quelle était la nuance au niveau de la langue, du langage, entre l'individuation et le devenir sujet. Vous avez parlé à un moment donné de subjectivation.
C'est vrai.
Qui est un petit peu voilà, donc il y avait cette question. Depuis hier, je m'interroge beaucoup sur les modèles pédagogiques en cours dans l'éducation artistique, entre le schéma apprentissage, exécution, conquête de technicité, voilà, et le renoncement à la virtuosité. Et puis la question de l'entrée dans un processus de création, ce qui me semble fort différent. Peut-être parce que, pour ma part, je travaille beaucoup du côté de l'éducation artistique du théâtre, et où donc la présence à soi vaut parce qu'il y a la présence aux autres. Et puis enfin, la question de l'accès à la liberté, à la conscience de la liberté, à l'exercice de la liberté, et évidemment, est celle qui nous importe le plus, peut-être. Je m'interroge sur la part que vous faites à la construction de l'altérité, justement. De la liberté par la conscience de l'autre, des autres moi-même et des autres que moi-même, dans cette perspective citoyenneté.
Mais l'altérité, le mot n'est pas dans mon diaporama, mais l'altérité chapeaute tout cet ensemble de valeurs. Pour moi, la valeur des valeurs dans ces enseignements et cette éducation, c'est justement l'altérité, le rapport à l'autre, pas seulement l'autre comme autrui, mais l'autre comme monde, ce qui est autre que moi. Comprendre le monde et se comprendre dans le monde, soi-même. Bon, sur individuation et subjectivation, je n'ai pas glosé plus que cela, parce que c'était pas le but. Il y a différents enracinements. Elle manie les deux concepts. Joël Zask, sans finalement préciser quels sont ses enracinements. Il y a plusieurs enracinements. Bon, il y a les enracinements psychanalytiques, hein, bien sûr. Ce ne sont pas les siens. Ce ne sont pas tellement les miens non plus. Non. S'agissant de la subjectivation, vous devez pouvoir trouver quelque chose du côté de Foucault aussi, mais je ne suis pas certaine que ce soit très utile pour l'école. L'important, c'est comprendre qu'est-ce qu'on vise. Comprendre ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on vise pour l'élève. S'agissant des processus de subjectivation, ils sont encouragés par tous les processus de symbolisation, tous les langages, c'est tout ce que je peux dire.
Oui, je suis enseignante à l'ESP de Grenoble et je voudrais renforcer le propos de la collègue de Bordeaux sur l'absolue nécessité en formation des enseignants d'aborder cette question. Une question que l'on affiche, que l'on met en lettres lumineuses sur le fronton des écoles, et qui est une triste réalité dont on a vu quelques images hier, et puis on entend aussi. Voilà. Et je profite, donc merci pour votre intervention. Je vous ai senti quelque peu subversive, vous intéressant aux arts, par rapport à l'institution. Merci. Et donc je profite d'une IG pour faire passer un message fort de ce besoin que l'on a dans les maquettes de formation de replacer
ces questions qui touchent les arts, mais pas que, qui touchent la question de penser avec les arts. Et ça, je pense, alors si j'étais très touchée par la citation que vous avez donnée de Madame Zask, enseigner l'art est non seulement possible, c'est aussi la manière la plus valable d'enseigner. Je pense que ça, il faut le défendre, que nous sommes nombreux dans les ESP à essayer de le défendre, et dans le même temps, on a un discours porteur et un discours économique qui empêche ça et qui nous renvoie à l'EAC telle qu'elle se décline, c'est-à-dire pour les enseignants du premier degré, c'est le faire aux autres. C'est compliqué. C'est normal que les collègues du premier degré n'osent pas, et en même temps, c'est une condition nécessaire pour que ça existe. Et donc, il faut qu'ils soient à minima traversés par ce que ça fait. Et il faut avoir l'occasion de le faire pour les élèves, mais d'abord pour les enseignants. Sinon, ils sont acculés à la parole des autres, certes expertes et souvent intéressantes, mais on en est là dans la formation, et ça, c'est terrible.
Je suis désolée parce que vraiment, sur la formation, je ne peux rien. Hein, je suis pas le ministre, la ministre, pardon. Donc partout où je passe, les collègues enseignants en SP me renvoient. Mais honnêtement, je ne peux rien. Je ne peux que prendre acte cette difficulté pour laquelle il n'y a aucune solution. Enfin, rien n'est envisagé s'agissant de la place des arts. Là, en plus, avec le plan, la grande mobilisation pour les valeurs de la République, les directeurs et directrices d'ESP ont eu en février une injonction directe d'introduire dans le tronc commun des contenus relatifs à ces questions. Donc, comme vous le savez aussi bien que moi, les troncs communs ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, voilà, il y aura 3 heures de saupoudrage sur la laïcité, puis 3 heures sur les arts. Bon, ce saupoudrage-là, on le connaît. Je n'ai pas de réponse. Enfin, pas de réponse globale, pas de solution. Je connais le problème du premier degré. Tout ce que j'ai, c'est que moi, je ne lâche pas l'affaire. Hein. À titre personnel, partout où je passe, j'incite les cadres parce que les IEN ont la capacité, la possibilité, les inspecteurs du premier degré, ce sont eux qui sont les principaux, qui ont la capacité dans leur circonscription de générer de la formation autour de ces questions. Voilà. Maintenant, localement, les situations sont très variables. Hein. Donc, voilà. Moi, je reprends vos mots et je m'en servirai. Vous êtes d'accord ? Penser avec les arts. Mais oui, c'est ça, bien évidemment, la clé. Penser avec les arts. Une formule, c'est exactement ça. Il faut qu'il soit traversé par ce que ça fait. Oui,